Je le prends. D'accord.
Celui-là.
Bien. Merci Monsieur Le Four, merci Monsieur Martinan, les autres organisateurs. Bon, l'invitation a ravivé effectivement un certain remords, puisque c'est une pure coïncidence. Nous sommes tous les deux à Cachan, et un jour Monsieur Martinan, après un exposé, m'a dit, vous savez, il existe un centre d'Alembert. J'ai découvert effectivement que c'était un centre très important. Bon, d'Alembert n'est la propriété de personne, bien sûr. Vous ne m'en avez tenu aucune rancune. Mais d'Alembert, ce n'est pas par hasard à Cachan. Hein. Je vais le préciser dans une seconde. Image pour faire liaison avec l'exposé précédent, dont j'étais très sensible au fait que le dernier transparent, c'était un composant organique. Il y a d'autres points communs, en tout cas, avec l'esprit, en particulier la navigation entre recherche fondamentale, recherche appliquée. J'étais on ne peut plus d'accord. D'Alembert, donc pourquoi d'Alembert? C'est hasard, nécessité, je ne sais pas. Donc je suis à Cachan depuis une petite dizaine d'années, après avoir fait l'essentiel de ma carrière au Centre national, au laboratoire de Bagneux d'optoélectronique, qui était un des plus gros laboratoires d'Europe en optoélectronique avant d'être démantelé, dans les circonstances que certains d'entre vous peut-être connu, et j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Decomte, qui m'a demandé de venir fonder un laboratoire de physique, en fait, à Cachan. Et puis, 4 ans après, Claire Dupas, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, m'a demandé de fonder un institut. Bon, moi, j'ai toujours suivi EBI, avec beaucoup de plaisir. Et il se trouve que le bâtiment où je travaillais à Cachan s'appelait bâtiment d'Alembert, parce que la tradition à Cachan, c'est de nommer les bâtiments d'après des philosophes, des Cournot, d'Alembert. Il n'y a pas Diderot, mais... Vinci, oui, etc. Donc, tout le monde cherchait un nom pour cet institut qui a vocation à mener des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de la photonique, des lasers, de l'optique non linéaire, pour ce qui est des aspects fondamentaux et pour ce qui est des applications... à l'interface des biotechnologies et des réseaux de télécommunications, passé CNET oblige. Et puis, donc, tout le monde cherchait fébrilement un nom, et puis un dimanche matin, j'ai pensé qu'on était dans le bâtiment d'Alembert, et que ça, c'était un nom qui pouvait convenir. Alors, d'Alembert, il y a de meilleures raisons que ces acronymes ou ces jeux de mots. C'est une équation que vous connaissez, certains d'entre vous, puisque bon, tout le monde n'est pas scientifique ici. Connaissent, qui est l'équation des cordes vibrantes, qui est due à d'Alembert et qui est en fait le lointain... D'Alembert est un des grands fondateurs de la physique mathématique. On lui doit... Enfin, je ne veux pas entrer dans un domaine qui n'est pas le mien, mais je crois que c'est l'histoire des sciences, mais je crois qu'on lui doit le passage du discret au continu, en particulier la découverte de cette équation maîtresse de la physique qu'on retrouve en électromagnétisme et en optique. C'est notre pain quotidien en optique, et vous allez voir que... quand on passe à la physique quantique, cette équation n'est pas non plus indifférente. Du minéral, j'ai un peu changé le titre, hein, du minéral au moléculaire, des micro- ou nanotechnologies, de l'ordre à la complexité. C'est un titre épouvantablement prétentieux, mais en fait, c'est un peu dans cet espace mental que j'essaye de vivre avec mes collègues, tant bien que mal, avec en tête et dans la vie réelle des applications dans le domaine des biotechnologies et des sciences de l'information. Ça fait aussi très patchwork. Quel rapport entre télécom et biotechnologie et sciences de la vie? À première vue, on pourrait m'accuser d'avoir pris les catchwords, hein, des priorités, par exemple, du 6e ou du 7e framework et de technologie de l'information, information technology, biotechnology, nanotechnology, et d'avoir mis ça... pas du tout, en fait. Vous allez voir que j'ai essayé de vous persuader que ça correspond vraiment à un domaine d'activité nouveau, réel, fédérateur, au sens de l'Institut fédératif d'Alembert, qui s'est constitué autour de ces idées. Alors, quelques images, déjà, pour vous montrer de quoi il s'agit, pour attirer votre attention. Je vais éviter, me demander d'éviter les développements scientifiques, je vais essayer d'être, de faire aussi, à moitié aussi bien que le précédent orateur qui a pas tombé dans le piège. Donc je vais essayer de vous communiquer l'esprit de ce qu'on fait sans me perdre dans les détails techniques. Donc voilà des images obtenues en microscopie confocale. J'expliquerai dans quelques instants de quoi il s'agit. C'est maintenant un instrument que se sont approprié la plupart des laboratoires de biologie modernes, bien équipés. Et vous voyez différentes couleurs qui ne sont pas en fait des colorations au sens traditionnel hein, de la préparation d'échantillons, mais qui résultent de phénomènes sophistiqués d'optique qui ont été découverts il y a une trentaine d'années, 30-40 ans, et qui ont constitué ce corps de l'optique moderne qui s'appelle l'optique non linéaire. Donc vous voyez à gauche, sur cette image de drosophile, une luminescence, une émission en fait cohérente de lumière verte et violette qui correspond à la génération de deuxième et de troisième harmonique de pigments qui sont de pigments artificiels, vous voyez, d'api dye, colorant d'api, qui viennent se fixer sur des domaines, des compartiments de cet ovaire de drosophile. Et à droite, des images de cellules vivantes de souches cancéreuses, hein, je pense que les médecins sûrement dans la salle qui connaissent ça mieux que moi. Et vous voyez d'autres types de signaux également cohérents, émis par irradiation de rayonnement laser approprié, au singulier ou au pluriel, hein, on verra ça dans plus de détails tout à l'heure, et qui reflètent, donc ces signaux sont émis par des nanosphères en latex, sensibilisés par des colorants, et ces nanosphères se fixent de façon sélective aussi dans des compartiments de ces cellules, émettent une lumière qui, elle, correspond à des signatures vibrationnelles des molécules contenues dans ces nanosphères. Là, il y a vraiment... le décor est posé d'une véritable révolution. J'utilise les mots qui sont ceux de mes collègues biologistes. Hein, en tant que physicien, opticien, je suis évidemment ravi. Mais c'est eux qui les utilisent, probablement comparables en importance à ce qui s'est passé avec l'invention de la microscopie qui a été au XVIIe siècle, ou les progrès de la microscopie. Qui a coïncidé avec l'avènement de la biologie moderne. Là, on passe à un nouveau stade d'une imagerie intracellulaire, péri et intracellulaire, vivante, en ce sens qu'on peut fonctionnaliser des entités nanoscopiques, nanométriques, introduites ou transfectées dans les cellules, dont on va pouvoir suivre les trajectoires et qui vont nous envoyer des signaux lumineux qu'on va être capable de capter. Et ceci avec une résolution qui est de l'ordre de celle de la molécule unique. Alors, pour ça, il faut une instrumentation. Et alors, je vais faire un petit parcours, hein, comme dans les différents pôles de référence de ce grand domaine d'activité, mais en évitant, en tout cas, je pense être sincère en disant qu'il n'y aura aucune hiérarchisation dans ma présentation. Et là, je passe à l'instrumentation, qui, à mon sens, n'est pas du tout ancillaire. C'est le cœur de la physique, et bon, on connaît son importance dans d'autres disciplines. Et là, un des instruments, en fait, assez ancien, mais modernisé, avec l'apport du laser, les progrès de l'optique, etc. Donc, c'est instrumentation et technologie, plus que révolution au sens discontinu, comme l'a été l'invention du laser. Donc là, l'instrument dont je disais qu'il figure maintenant dans tous les laboratoires de biologie bien équipés, c'est le microscope confocal dont je vais vous montrer des versions en linéaire et en non linéaire. Donc c'est la conjonction en fait l'agglomération de grandes avancées de la physique de la fin du dernier siècle, hein, du 20e siècle, le laser, l'optique non linéaire, les technologies de la photonique et évidemment la mécanique quantique, la physique statistique pour interpréter les résultats. Donc un microscope confocal, en fait, le principe de la confocalité est aussi vieux pratiquement que l'optique géométrique, puisqu'il s'agit de, en utilisant une fente qui est conjuguée avec un point focal dans un système télescopique, de résoudre, de faire une sorte de tomographie en Z, le long de la direction de propagation, d'un échantillon, et donc d'avoir une vision sélective d'un plan de découpe d'un échantillon. Lorsque les molécules ou la nanoparticule émettrice de lumière qui va répondre par fluorescence sous excitation du laser est suffisamment isolée des molécules voisines, de façon à ce que le critère de Rayleigh, évidemment, qu'on ne peut pas violer, soit satisfait, le critère de résolution des appareils en microscopie, on voit la luminescence ou la conversion de fréquence, deuxième, troisième harmonique, comme je l'ai montré tout à l'heure, d'une particule unique. Là, vous voyez un phospholipide, une membrane qui est fonctionnalisée par des molécules luminescentes en concentration suffisamment faible pour que dans le champ de focalisation de l'appareil, on ne voit qu'une molécule. Alors ça, c'est une vision un peu statique, mais dont on peut faire une vision dynamique, hein, et on parle maintenant de trafic moléculaire. Ce sont des expériences qui consistent à suivre à l'intérieur d'une cellule, au travers de la membrane, puis ensuite excursion dans le cytoplasme, éventuellement internalisation dans le noyau, de virus, d'oligonucléotides, de fragments d'ADN, réparateurs, virions, toutes sortes de phénomènes en fait, qui nous permettent d'approcher de façon rationnelle ou d'espérer approcher de façon rationnelle la pharmacologie, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment au niveau des cellules quand une entité agressive ou au contraire réparatrice est amenée à pénétrer ou par effraction ou volontairement dans le cœur de la cellule. Donc voilà une image, je vais vous en montrer d'autres dans la suite. Et tout ça fait appel à des phénomènes très beaux, très élégants, qui présentent un grand intérêt du point de vue de la physique fondamentale, qui sont cohérents ou incohérents, et que j'ai mentionné en passant tout à l'heure, génération de seconde harmonique, c'est l'absorption de deux photons cohérentes et l'émission d'un photon à la fréquence double, qui a été découvert par Bloombergen, interprété par Bloombergen dans les années 60, début des années 70, et qui depuis devient tout un domaine de la physique, de l'optique physique, de la science des matériaux, etc. En gros, avant l'invention des lasers, on ne disposait pas des intensités, des densités d'énergie suffisantes pour que ce phénomène d'absorption simultanée, si vous voulez, de deux photons ait une section efficace et une probabilité suffisamment forte. Avec l'avènement des lasers, on a été en mesure d'observer ce type de phénomène, et je dirais que c'est comme la découverte de la face cachée de la Lune. Lorsqu'on était contraint de travailler avec des transitions à un photon, on était en même temps sujet ou esclave, si vous voulez, tributaire de ce que les physiciens appellent des règles de sélection, de conditions de symétrie très contraignantes qui font qu'on ne pouvait aller de l'état fondamental, de l'état au repos de la molécule ou de l'atome, etc., que vers certains états de symétrie accessibles. Tout ça s'explique très bien en termes de parité respective des états. Et là, les mathématiques, la théorie des groupes, à l'honneur Orsay, etc., fait merveille. Hein. Ils sont très bien mariés à l'optique, à la mécanique quantique, etc. En passant aux transitions multiphotons, en particulier à nombre pair de photons, on a découvert tout un tas de choses cachées, extraordinaires et très importantes du point de vue fondamental et appliqué. Alors là, je montre aussi la vertu beaucoup plus concrète, mais extrêmement importante de ces effets multiphotoniques, qui permettent de s'affranchir en fait de la confocalité au sens un peu naïf de l'optique géométrique pour sélectionner un plan en Z, hein. C'est la dépendance de ces effets d'émission de fluorescence à deux photons de seconde harmonique, dépendance en puissance carré, cube, etc., puissance n pour les absorptions à n photons, de l'intensité incidente, qui font que en fait on observera l'effet de fluorescence à deux photons, par exemple, que à la focale, que là où une densité d'énergie suffisante sera concentrée pour déclencher l'effet recherché. Et vous voyez ici en dessous la différence entre un faisceau, le tracé d'un faisceau de fluorescence qui va illuminer toute la cuve, hein, et une fluorescence à deux photons en bas où vous ne voyez qu'un point brille. Donc la possibilité de travailler dans le volume des échantillons. Et a fortiori, si le faisceau incident est infrarouge, un faisceau infrarouge permettant d'accéder, de déclencher une émission dans le visible, et l'infrarouge pénètre mieux que le visible dans les tissus. Alors je saute, ou je parais sauter du coq à l'âne, là, en passant à la technologie, hein, mon domaine initial. Maintenant, je fais beaucoup plus de biophotonique, de bio que de télécom ou de physique au sens traditionnel, disons, monodisciplinaire. Donc je fais semblant de passer du coq à l'âne en vous montrant ici une image intéressante. Alors ça n'est pas de l'électronique moléculaire, je parlerai de photonique moléculaire, tout ça c'est connexe en fait. Spin, photon, électron, etc., ce ne sont pas des domaines qui s'ignorent, tant s'en faut. Mais enfin, je me concentre sur les photons. Et vous voyez ici quelque chose d'assez extraordinaire dont je vous dis hein, que c'est un laser, en fait, un laser, c'est un système à émission verticale. Donc un système multicouche extrêmement sophistiqué, une des couches étant d'ailleurs un réseau, c'est-à-dire une couche dont la constitution est modulée spatialement de façon à introduire un feedback, un gain dans le laser. Et on ne voit pas le faisceau de pompe parce qu'il est infrarouge. Et on voit une émission, et surtout ce qu'il faut voir et admirer, c'était la première page d'un numéro spécial qui a fait date, c'est que l'effet laser résiste à la flexion de ce substrat en plastique. C'est du plastique, un vulgaire polymère, évidemment très sophistiqué. Et là, c'est la porte ouverte, évidemment. C'est très naïf hein, de commencer à parler de photonique moléculaire, de électronique moléculaire, à partir de cet argument de base qui est la flexibilité. En réalité, ça va très loin. Ça va très loin si on pense à des implants, à des choses biocompatibles, pliables, dont je vais parler. En tout cas, un dispositif aussi sophistiqué qu'un laser fonctionne, continue à fonctionner dans ces conditions. Ces choses-là, donc, qui relèvent de la photonique moléculaire, sont actuellement dans le commerce, commencent à concurrencer les cristaux liquides. Je n'ai pas besoin de vous dire que le marché des displays, etc., est un énorme marché. Il s'agit là d'une technologie qu'on appelle la technologie OLED, Organic Light Emitting Diode, qui se distingue très fortement des cristaux liquides, qui sont des dispositifs passifs hein, de filtrage de la lumière, en ce sens qu'ils sont émissifs, hein, qu'ils émettent de la lumière, comme les LED d'ailleurs des semi-conducteurs, avec des avantages par rapport aux semi-conducteurs, grande surface, probablement bas coût, très grande luminosité, etc. C'est un domaine de recherche industrielle extrêmement actif. Vous voyez ici, il y a deux filières. Une filière petite molécule qui avait été inaugurée dans les années début des années 80 par Kodak, et puis une filière polymère conjugué, macromolécule avec des électrons très délocalisés qui donnent lieu aussi à des travaux très intéressants. Qui est plutôt développé à Santa Barbara, Cambridge, pour donner quelques noms, Richard Friend, Alan Higer, etc. Alan Higer qui venait souvent ici, d'ailleurs, au laboratoire, visiter Friedel, etc. J'étais sensible aussi à l'hommage de Jacques Friedel, qui a été président de mon jury thèse et qui n'a pas arrêté de suivre, qui est l'exemple même d'un physicien du solide, inorganique, de très très grand, mais qui n'a pas arrêté d'encourager les recherches minoritaires. Qui le sont de moins en moins. Hein. Mais je peux vous dire que c'était extrêmement hétérodoxe de travailler en tant que physicien sur les matériaux moléculaires dans les années 70. Et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu le soutien de continuer jusqu'à ce jour, de Jacques Friedel ou d'autres comme Daniel Chemla. Bon, ça serait une longue histoire. Mais évidemment, tout ça est fait de rencontres autant que de choix. Alors, voilà un autre exemple de ce qui se fait en photonique moléculaire. Bon, les télécoms qui sont plus ou moins synonymes de télécom optique, hein, en grande partie, hein, je n'oublie pas évidemment les hautes fréquences, la radio, mais enfin les télécom optiques sont un très très grand domaine qui a reçu une veste monumentale il y a 4-5 ans. J'ai fait allusion à certaines disparitions, renaissances de laboratoires qui ne sont pas tout à fait indépendantes de ces fluctuations. Toujours est-il que l'avenir des systèmes à multiplexage en longueur d'onde, très haut débit, 40 gigas, 80 gigas, etc., est absolument certain. Hein. Il y a eu des erreurs de management, etc., avec lesquelles les scientifiques ont peu de choses à voir, hein, et dont beaucoup d'entre eux ont été victimes, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que les grands défis de développement en grand volume et à bas coût de composants de traitement de l'information optique fonctionnant à 40 gigabits, 60, etc., restent devant nous et que là, les polymères constituent, toute évidence, des challengers pour le niobate de lithium, par exemple, les oxydes inorganiques ou les semi-conducteurs, tout à fait intéressants. Et ceci, pas seulement pour des raisons naïves ou pas naïves de bas coût, etc., de technologie, ça, c'est des très bonnes raisons, mais pour des raisons physiques beaucoup plus profondes qui ont trait à la constante diélectrique, en particulier aux hautes fréquences, le epsilon grand oméga, de ce type de matériaux qui est extrêmement faible et proche de l'indice ou du carré de l'indice de réfraction aux fréquences optiques dans ces mêmes matériaux. Autrement dit, on est dans des conditions d'adaptation parfaites entre le signal électrique qui va venir apporter l'information sur ce micro-interféromètre et la vitesse de l'onde porteuse optique qui va enregistrer cette information. Ceci est un modulateur, hein, et avec, j'ai pas envie de paraphraser Archimède, mais donnez-moi un modulateur, et on fait tout avec ça. Ça, évidemment, avec un détecteur et un laser. Hein, mais pour le traitement de l'information, c'est l'aiguillage de la ligne de chemin de fer. On peut faire un switch, un commutateur, un multiplexeur, un convertisseur série parallèle, mais le modulateur, c'est l'instrument de base qui va permettre d'écrire à très haut débit dans ces matériaux une information qui est initialement électrique ou radioélectrique sur une porteuse optique. Écrire ou bien extraire. Alors ces technologies sont... Bon, j'ai passé un certain nombre d'années à développer ces technologies quand j'étais au CNET. Dans une première génération de technologies, c'était des technologies dérivées des technologies classiques de la micro-optoélectronique, à une exception près, hein, que je revendique, hein, je n'ai pas envie de m'excuser. Nous n'avons pas besoin pour ce type de dispositif de l'épitaxie et de l'ultravide. C'est une des forces. Hein. En particulier, je ne serais pas à Cachan si j'étais tributaire je serais au LPN, probablement à Marcoussis avec mes collègues, de Bagneux, puisqu'il n'était pas question d'accueillir dans une enceinte universitaire des bâtis de MOCVD, etc., de MBE, c'est trop dangereux, trop cher, etc. Donc, c'est des technologies, en fait, de centrifugation. Imaginez quand vous faites une crêpe, mais vous faites tourner la poêle suffisamment vite. Et c'est des technologies extrêmement, qui ne sont pas bas de gamme, extrêmement éprouvées du point de vue industriel, qui donnent une homogénéité, une planéité des couches sur des surfaces significatives importantes et qui se prêtent aussi à des dépôts multicouches. Bon, évidemment, les choses dans le détail ne sont pas aussi simples. Des structures multicouches, puisque c'est un multicouche aussi, comme le laser, sont quand même difficiles à élaborer. Il faut faire attention quand on dépose une couche que la sous-couche ne soit pas dissoute par la couche au-dessus, etc. Il faut veiller aux interfaces, mais enfin, toutes ces technologies, maintenant, sont bien maîtrisées, et à Cachan, nous avons une salle blanche dédiée à ce type de matériaux. Je voudrais dire aussi que ces matériaux ne sont absolument pas, peut-être contrairement aux niobates de lithium ou aux oxydes inorganiques, minéraux, ne sont absolument pas antinomiques des semi-conducteurs, et si le temps d'abord, c'est au niveau tout à fait basique du substrat, ces composants sont élaborés sur des substrats de silicium oxydés, hein, de façon à avoir une couche tampon. Et à d'autres échelles d'intégration, bon, je travaille beaucoup et je crois énormément à l'hybridation entre semi-conducteurs et organiques, y compris à l'échelle nanométrique. Hein, je donnerai des exemples. C'est la voie, à mon avis, à suivre. Alors, j'ai déjà largement entamé la promenade, hein, que je dirais plus transgressif parce que je crois que l'exposé précédent était tout aussi zigzagant que le mien, en fait. Mais enfin, nous zigzagons dans ce métier en suivant quand même des idées, à la fois une sorte de rêve ou de trajectoire intérieure et en même temps des grandes tendances. Hein. Mais sur le terrain, on zigzague, hein, rencontres, circonstances, inspirations, etc. Donc c'est un zigzag qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, dans mon cas comme dans d'autres, hein, est pluridisciplinaire, sans que je le proclame ou que je le revendique. C'est parfois un prix à payer, d'ailleurs. Vous avez tronqué un peu. Entre le monde organique et le monde minéral, sans ordre et désordre, statique et dynamique, et entre des considérations plutôt matérielles et plutôt immatérielles. Hein. Ce qui est matériel relevant de la chimie, où on risque de s'engluer si on est trop... Et ce qui est immatériel, relevant par exemple de ces particules immatérielles que sont le photon, etc., on risque aussi de s'éterrer. Et les choses intéressantes, à mon avis, sont à l'interface entre les deux. Alors j'ai écrit ça hier soir, donc c'est vraiment... Je pourrais écrire des pages là-dessus, hein, mais c'est du vécu. Alors, des exemples, on a eu un exemple tout à l'heure de rebond fécond multiple entre recherche fondamentale et recherche appliquée. J'ai pensé, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Sturmer. Je l'enseigne aussi à mes agrégatifs sur la modulation de dopage, tous ces travaux de recherche à Bell Labs, donc avec le laboratoire avec lequel au CNET, pour nous, c'était le grand modèle, on était très liés. Donc toute cette recherche de physique des nanostructures à l'époque, des structures épitaxiées, où il s'agissait d'augmenter le plus possible la densité électronique Mais en jouant un jeu plus subtil que d'introduire des dopants, parce que les dopants réabsorbent, etc. Donc il a inventé, bon je passe la modulation de dopage, lui ou Ezaki, je ne sais plus, il travaillait là-dessus. Et donc Abel Labs, il travaillait, je dirais pas comme alibi, probablement il devait y croire, parce qu'il a fait très belles choses. Il a inventé les HEMT, High Electron Mobility Transistor, qui sont maintenant, je pense, dans les portables, dans les tas de... Et puis la nuit, j'ai entendu donner des conférences à MRS, à Boston, etc. Il allait porter les mêmes... Le rêve qui le portait, c'était de regarder ce qui se passe quand on met ces couches à forte concentration électronique dans des champs magnétiques intenses, dans la foulée de l'effet Hall quantique, etc. Il a découvert, enfin, il raconte ça très bien, la nuit, il a découvert sur les mêmes couches qui, le jour, lui faisaient des devices, l'effet Hall quantique fractionnaire. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de plus bel exemple. Tout ça, ça se trouve sur le web aussi. Alors, je paraphrase, hein, pas de volontarisme en ce qui concerne la pluridisciplinarité, mais le constat d'une nécessaire, hein, il n'y a pas d'autre façon de travailler, et ce n'est pas neuf. Je donne un exemple, là, l'imagerie nano-biophotonique, etc. Il faut. Ça ne veut pas dire qu'une personne détient le savoir. Hein, elle doit au moins savoir bien maîtriser une des composantes de ce savoir, être conscient des domaines connexes et savoir travailler en équipe. Alors, monde organique, monde minéral, bon, c'est un sujet qui est beaucoup moins sulfureux qu'il n'aurait été il y a 20 ou 30 ans, etc. Naval Research, puisque Bell Labs a proposé l'électronique moléculaire, etc., bien trop tôt, en fait. Forest Carter, etc. Moi, j'ai expérience, puisque à Bagneux, j'ai vécu dans... En fait, j'ai eu la chance de vivre une existence de marginal protégé. J'ai mentionné Jacques Friedel, mais il y avait Daniel Chemla, il y avait d'autres, etc., qui regrettaient Jean-Pierre Noblanc, qui m'ont permis de développer des recherches, je dirais, abritées, en fait, par ce très fort courant dominant de la recherche des semi-conducteurs, etc. Donc, quand on a la chance d'être une minorité protégée, etc., jusqu'à un certain point, on peut faire des... On vit bien. Et j'ai bien vécu, donc, avec de forts soutiens. Ceci étant, j'ai connu aussi des tensions, et ce sujet, je ne sais pas s'il y a des psychologues, etc., dans la salle, mais cette dialectique moléculaire, désordre, c'est sale, ça sent pas bon, etc., versus le cristal, minéral, organique, idéalité mathématique, en fait, a de fortes connotations psychologiques, et à mon avis, assez malsaines. Mais qu'il faut reconnaître, j'ai constaté... C'est plus le cas maintenant parce que c'est reconnu comme recherche. Hein, y a pas de... Mais j'ai assez de recul. J'ai constaté qu'en tout cas, on trouvait dans les années... c'est un constat que je ne veux pas interpréter. Dans les années 70-80, beaucoup plus de candidatures féminines courageuses pour aller du côté du désordre, de la saleté, etc., que masculines. Donc j'ai eu le plaisir d'avoir des collaboratrices extrêmement brillantes et audacieuses sans s'en rendre compte. Bon, tout ça est dépassé parce que maintenant, ça se vend beaucoup mieux. Alors, ordre, ça vous amène à parler de ordre et de désordre. Ordre, désordre, statique, dynamique, etc. Ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, celui de mes étudiants, c'est de m'intéresser avec les outils du physicien et même avec des outils mathématiques, algébriques, à la matière réputée sale, désordonnée, etc., et essayer de la traiter sans m'engluer complètement dans de la zoologie, etc., mais sans abandon de rigueur, en utilisant vraiment, en essayant de disséquer cette matière au sens de la théorie des groupes, de la jappe tensorielle, etc., et de reconnaître de l'ordre là où une somme de sous-structures ordonnées, si vous voulez, au sens de peut-être de décomposition de Fourier, là où il n'y avait a priori que du hasardeux, du flou, du purement descriptif. Tout ça combiné avec les progrès de l'instrumentation. Et enfin, matériel, immatériel, molécules et photons. Alors bon, je connais très bien la très grande communauté en France de l'optique quantique, de la physique atomique, etc. Je dirais que c'était assez difficile intellectuellement de vivre entre d'un côté la physique du solide ou avec ses fonctions de bloc, l'invariance par translation, etc., objet éminemment mathématisable, et puis à l'autre inverse, la physique atomique, chose merveilleuse aussi, non moins mathématisable avec la sphéricité, les harmoniques sphériques, Wigner, Eckhart, tout ce que vous voulez. Vivre entre les deux, à mon avis, est aussi intéressant, mais plus difficile. il faut pas. On risque de se retrouver, évidemment, on est en France, repoussé dans l'enfer de la chimie, c'est une honte pour le physicien. Mais quand on s'en fiche, on survit. Il faut donc prendre en compte cette complexité extraordinaire de la chimie et en même temps ne pas céder sur la rigueur, la beauté de la physique et des mathématiques. Donc c'est sur la ligne de crête, à mon avis, qu'il faut essayer de se maintenir, de surfer. La ligne de crête de l'interaction, en fait, entre les molécules et les photons, le matériel immatériel, l'échange, le jeu entre photons et molécules. Et puis j'ai pensé même hier soir que les choses, et là c'est un hommage à l'école de la physique atomique, des choses très intéressantes se passent quand on change les rôles. Hein. Par exemple, quand les atomes deviennent cohérents, et c'est toute la beauté de la condensation de Bose-Einstein et des atomes froids. Alors, qu'est-ce que la photonique et la biophotonique moléculaire? C'est un très grand domaine, hein, je ne peux pas... D'abord, pourquoi cette agglutination hein, de photonique et biophotonique? Il s'agit, dans les aspects télécom, d'engendrer, de transporter et de traiter l'information. Alors, quelques mots-clés sont cryptographie, bande passante, tout ça, j'ai évoqué les hauts débits en parlant des modulateurs, les fibres optiques, les composants, c'est une énorme industrie où toutes les familles de matériaux ont leur chance et leur avenir. Il s'agit d'imager, de voir, de sonder aux échelles spatiales et temporelles les plus fines, je reviendrai là-dessus. C'est le domaine de la nanophotonique, pour ce qui est des instruments de lecture, des nanostructures et de la nanochimie pour ce qui est des objets. Et là, je dirais que optique et biotechnologie, j'en ai donné un exemple, ou sciences de la vie, se rejoignent. Il s'agit aussi d'élaborer et d'utiliser, en l'occurrence, le rayonnement pour fabriquer, pour façonner, comme je vais le montrer dans le cas de mémoire optique, des micro et même des nanostructures qu'on ne pourrait pas élaborer autrement qu'avec du rayonnement optique et autrement que dans un milieu flexible. Hein, je vais faire de façon plus concrète l'éloge de la flexibilité à nouveau dans mon exposé, ce qui ne serait pas le cas, ce qui n'est pas possible dans les cristaux. Et enfin, fonctionnaliser, c'est-à-dire avoir une ligne directrice hein, sans laquelle on serait complètement noyé dans la profusion de structures qui est en général liée, il me semble, toujours plus ou moins à un principe physique, à une propriété, qu'elle soit utile ou inutile. Alors, quelques repères historiques, tout ça, c'est pourquoi maintenant cette explosion dans ce domaine hein. Même, vous avez peut-être vu, pour ceux d'entre vous qui lisent les journaux, que biophotonique est dans la bouche de Chirac. Hein. Il y a 2 semaines, il a annoncé dans le sommet franco-allemand que ça serait un des 4 sujets stratégiques. Alors, quelques repères historiques récents. Bien sûr, il y a une préhistoire, mais bon, il me semble qu'un tournant très important, à la fin des années 80, a été la découverte par deux physiciens qui ont travaillé ensemble, pas dans le même laboratoire, mais qui ont coopéré, l'un qui était à IBM San José à l'époque. Au passage, une petite nostalgie sur ces grands laboratoires industriels qui faisaient une recherche très importante, industrielle, fondamentale et désintéressée. Hein. Et IBM, Almaden, San José, Yorktown étaient en pointe dans ce domaine-là, comme Bell Labs, etc. Donc la découverte par Murner de la possibilité de détecter par absorption des molécules uniques, un objet moléculaire, bon, c'était un exploit absolument héroïque, et Orrit, à Bordeaux, à l'époque, a complété, a montré que la bonne voie, ce n'était pas l'absorption, mais c'était la fluorescence. Et ils ont réussi. Alors, il y a un exploit aussi intellectuel qui est issu de toute une tradition de recherche qui s'appelle le Hall Burning Spectral, qui est une forme très évoluée de spectroscopie, qui permet de tricher avec le pouvoir séparateur des appareils, le critère de Rayleigh dont je parlais tout à l'heure, en passant dans le domaine spectral, spectroscopique. Et dans un fouillis de molécules, qu'est-ce qui fait qu'une bande d'absorption ou une bande de fluorescence est très large, alors que normalement, pour un objet atomique ou moléculaire, la largeur de ray devrait être extrêmement fine et liée à l'inverse de la durée de vie de la chute de la transition optique hein, entre l'état excité et l'état fondamental. Cet élargissement, en fait, ce que les physiciens appellent élargissement inhomogène, qui est dû même dans des matériaux très propres, comme les gaz, par exemple, qui est dû à toutes sortes, qui est dû au fait que les objets atomiques ou moléculaires voient des environnements différents. Donc, Orrit a proposé, en mettant en jeu toute cette physique du Wall Burning spectral, a permis de remonter à l'émission par la voie spectrale d'une molécule par l'observation d'une raie d'émission réduite à sa largeur homogène, c'est-à-dire à sa durée de vie, ou à l'inverse de sa durée de vie. Et donc ça a été évidemment... je pense que c'est quelque chose qui n'a pas évidemment révolutionné la physique, directement la physique quanto-statistique dans laquelle on est tous nés, et on continue à avoir évidemment un très beau jour au XXe siècle, dans lequel on est né, qui est né au début du siècle dernier. Mais, si vous voulez, ça a permis de passer d'une physique d'ensemble, moyennée sur un grand nombre de particules, donc d'ensemble au sens des moyennes ou des moments d'ordre plus élevé, à une physique où on pouvait interroger les objets atomiques ou moléculaires un par un. Donc, à travailler dans des milieux, d'ailleurs, inhomogènes, malpropres, etc. Et donc, ça a conduit à un déblocage psychologique, en fait, plus que réel, puisque les manips initiales d'Orrit et de Murner étaient des manips à froid, hélium liquide, etc., donc pas vraiment intéressantes pour la biologie. Alors, et bien qu'il n'y ait pas de filiation, c'est un point pour les sociologues ou les historiens des sciences, il n'y ait pas vraiment de filiation directe, ça a débloqué les esprits, et les gens se sont mis à développer des microscopes confocaux qui ont permis, en fait, à température ambiante, dans des milieux fluides, etc., des milieux réels, d'observer la fluorescence d'objets uniques. Et ça, dès le milieu des années 90, ça a explosé. Et c'est devenu maintenant une technique généralisée en plein développement. Alors, de façon concomitante, les chimistes et les biochimistes ont beaucoup travaillé sur le greffage sur des entités biologiques intéressantes, pertinentes, l'ADN, les protéines, etc., de molécules ou de fragments fluorescents, de quantum de gouttes de nanostructures de semi-conducteurs luminescents, 3, 5, 2, 6, etc., voire même les biologistes ont manipulé les gènes de certaines substances, extraits de poissons, etc., jellyfish et autres, pour y introduire des séquences qui codent la synthèse de protéines naturellement, entre guillemets, luminescentes. Donc quelque chose d'encore plus subtil que le greffage covalent ou d'entités organiques ou inorganiques. Alors ça, c'est pour le domaine spatial. Dans le domaine temporel, je n'ai pas besoin de dire que le laser est une révolution, mais la révolution là, sur laquelle nous vivons actuellement, c'est celle des lasers ultra-brefs depuis les années 80. Début des années 80, Ahmed Zewaid, Chuck Schenk, etc., qui sont maintenant dans tous les laboratoires. Donc une véritable banalisation de ces flashs optiques cohérents qui permettent de descendre à l'échelle temporelle de quelques cycles du champ électrique, d'oscillation du champ électrique dans le spectre visible, c'est-à-dire quelque chose comme 4 ou 5 femtosecondes. Deuxième révolution en cours, depuis 3 ou 4 ans, c'est la possibilité de descendre en dessous de ces 10 puissance moins 15 secondes, les femtosecondes, à l'échelle de quelques dizaines ou centaines, disons maintenant, d'attosecondes, 10 puissance moins 18 secondes, un milliardième de milliard de secondes. Donc c'est des travaux germano-autrichiens qui reposent sur un principe tout à fait... sur la technologie, en fait, mais une très belle idée de technologie et de physique, qui est l'extrapolation dans le domaine... laser et rayons X d'une technique qui avait été développée dans le cas des lasers femtosecondes en optique qui s'appelle la Strike Camera et qui permet cette fois-ci d'explorer non pas à l'échelle comme on peut le faire à l'échelle femtoseconde, c'est-à-dire des temps de relaxation entre orbitales, donc des excitations d'électrons entre différentes orbitales atomiques ou moléculaires, mais des temps qui correspondent à des, pour prendre une image classique, à des rotations d'électrons à l'intérieur d'une même couche autour du noyau, donc des temps qui sont sub-femtosecondes. Donc ça, c'est une nouvelle fenêtre temporelle extraordinaire. Alors, voilà quelques... Alors, j'ai l'embarras du choix. Hein, pendant les 10 dernières minutes, j'ai préparé beaucoup trop de choses. Je voulais uniquement vous donner l'arôme hein, du sujet. La promenade, en fait, pourrait nous... L'univers dans lequel on vit, au moins, cachant. Hein. Promenade dans laquelle je voulais vous entraîner. Passe de molécules, macromolécules organiques et bio-organiques, pour la photonique. Ces molécules, il faut les organiser. C'est le domaine des micro- et nanotechnologies pour faire des composants, modulateurs, j'en ai montré un exemple, commutateurs, filtres. Là, je passe à la neurophysiologie. Ça paraît à nouveau être du coq à l'âne, pas du tout. Alors ça, je vais peut-être vous le montrer. Il y a un lien direct, et ça, je le revendique fortement, parce que c'est vraiment le... J'ai essayé de vous convaincre que c'est assez naturel, venant d'un milieu télécom, où le modulateur et l'effet Pockels électro-optique est évidemment à l'honneur, de penser à ces techniques pour développer de nouveaux types de microscopes qui permettent de faire une imagerie du champ transmembranaire ou du potentiel d'action dans les neurones ou au travers des membranes cellulaires. Mémoire optique cryptée, non linéaire, donc je vais aussi essayer de vous montrer des choses. Contrôle du déplacement de molécules uniques, pince optique en milieu cellulaire, par opposition aux pinces optiques, aux optical tweezers que vous connaissez tous dans le vide. Bon. Qui sont des manips extraordinaires, hein, d'étirement de molécules par voie optique, mais c'est, à mon avis, non moins intéressant de se livrer à ce genre de jeu dans la matière, dans une cellule, pour l'instant dans des polymères, et puis, pourquoi pas, microcavité et billard optique, c'est aussi un domaine sur lequel nous travaillons, qui a trait... aux composants, aux microsources laser, etc., mais aussi à la belle physique et au problème du billard optique, des non-linéarités, du chaos, etc., et qui lui-même rebondit sur de nouvelles générations de biocapteurs et de biosenseurs. Alors, plutôt que de... Je vais aller droit dans les 5... J'ai 5 minutes encore ? 5-10 minutes ? Je vais choisir... Je vais vous montrer une image de... Alors, voilà un microscope confocal. Notre collègue Sophie Brasselet, aux commandes. Ce sont des équipements assez légers. Hein. Ça a été pour moi un vrai bonheur. J'ai fait de toute ma vie de physicien. J'ai eu la chance de livrer des activités, je pense, intéressantes, pertinentes, mais sans que ça soit des usines à gaz à 50... on peut faire de la belle physique, je pense, avec des... Alors, je ne veux pas non plus... Tout ça est coûteux. Hein, je ne veux pas faire l'apologie de la physique du pauvre, pas du tout. Mais disons, ça n'est pas pharaonique. Et alors, pourtant, c'est parfois difficile à financer. Hein, ça, c'est un point. Peut-être parce que ça n'est pas pharaonique. Alors, la détection confocale, voilà ce que ça donne quand on fait... Ça, c'est un film que m'a donné mon collègue Christian Auclair, du laboratoire de biologie de Cachan. Donc, c'est un... vous voyez des filaments d'actine, c'est les câbles tendeurs hein, des cellules, et vous voyez ici, donc, ils sont marqués en fluorescence. Et on voit bien ici les différentes sections de la cellule qu'on explore de façon très nette. Hein. Vous voyez le contraste entre une image en confocale et en non-confocale, c'est beaucoup plus flou. Hein. On intègre sur toute la profondeur en Z. Un suivi, bon, de... Alors, c'est tout un domaine passionnant de physique statistique, équation maîtresse de stochastique, etc., que de suivre le déplacement brownien plus ou moins gêné de ces particules luminescentes. Vous voyez qu'il y a différents marqueurs qui correspondent à différentes couleurs. On les voit circuler là, en régime libre, membranien, et puis ensuite, en approchant, je ne sais pas, un compartiment qui peut être une mitochondrie, on les voit séjourner plus longtemps. Ici, une collision, d'ailleurs, ici, entre deux particules. Bon, tout ça s'analyse en termes de... en corrélant avec l'environnement cellulaire. On retrouve d'ailleurs là-dessus, j'en profite pour dire, puisque je crois qu'il y a une composante histoire des sciences, l'année Einstein, ses papiers les plus cités, ce que tout le monde ne sait pas, c'est le mouvement brownien. Peut-être. Alors, une version de microscope confocal qu'on a développé à Cachan, c'est de l'ellipsométrie. Alors, l'ellipsométrie, c'est un grand domaine de l'instrumentation, de l'étude des surfaces, du contrôle de qualité industrielle, etc. Et avec ce type d'instrument, on peut faire de l'ellipsométrie, bon, ça a été un de nos résultats, à l'échelle nanométrique. Donc voilà, à gauche, des objets, des nanocristaux, qui font typiquement 20 nanomètres de diamètre. Vous avez ici la réponse de ces objets nanométriques en seconde harmonique et en fluorescence. Vous voyez tout de suite la différence entre une réponse cohérente, un pic qui est exactement à la fréquence moitié du pic excitateur, et puis là, la raie de fluorescence qui est beaucoup plus large. Et la réponse ellipsométrique, donc je passe sur les détails, hein, on fait tourner la polarisation au point focal du microscope dans le plan de l'échantillon et on explore la réponse non linéaire, et ceci en différents points. Donc on fait vraiment une imagerie ellipsométrique et vous voyez ici des réponses extrêmement différentes selon les points qu'on vise, qu'on analyse et qui pour nous se traduisent en termes de paramètres d'ordre, de désordre et de qualité cristalline de chacune des nanoparticules. Alors on a joué à ce genre de choses avec d'autres types de nanoparticules qui sont des composés d'inclusion, donc une matrice ici, et puis des molécules non linéaires, qu'on sait introduire dans des canaux. C'est une très belle chimie qui est faite à Berne. Et vous voyez ici l'examen en microscopie échelle nano, génération de seconde harmonique et fluorescence à deux photons, de détails submicroniques qui nous permettent de remonter à l'orientation de ces molécules, à leur packing dans les canaux, et aussi à la qualité cristalline. Alors, je vais vous montrer un film de la croissance de ce genre d'objet en génération de seconde harmonique sur fond noir. Donc, on a accès, grâce à ce genre d'outils, c'était un peu un rêve des cristallogéniteurs d'autrefois, à ces premières étapes de la formation en dendrites, manifestement, de cristaux. Et vous voyez que c'est en fond noir, c'est en génération de seconde harmonique, donc on caractérise aussi la structure cristalline à mesure qu'elle se forme. Alors, exemple de la souplesse de ce genre de composés luminescents à base de polymères. Alors ça, c'était des manips que j'avais commencé à Cachan avant de recevoir l'instrumentation lourde, donc c'est un peu des manips de pauvres et qui ont très bien marché et qui consistent à entourer. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire avec des semi-conducteurs. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser Mère Nature faire les choses complètement toute seule, il faut que ce soit des manips de trempage, etc., soient très stabilisées, d'évaporation. Mais en gros, il s'agit de dénuder une fibre optique, de la réduire à son cœur, et ça on peut le faire de façon très calibrée, et ensuite de faire trempette à cette fibre dans une solution qui contient des molécules efficaces, etc., et ensuite de laisser évaporer, et donc vous obtenez ce qu'on appelle une structure en anneau qui va donner une microcavité parfaite, un billard, avec lequel on est parfaitement cylindrique. Hein. Il ne serait pas pensable de faire croître un cristaux, un cristal autour d'une fibre qui l'épouse et dont la surface externe est cette forme. Et vous voyez ici, bon, pour ceux qui... les différents modes du laser, une courbe tout à fait bien constituée de gains d'émission en fonction de l'intensité de pompe. Et le pompage, et j'ai oublié de dire, a lieu le long de la fibre. Donc voilà un petit résumé de la technologie. C'est vraiment pas grand-chose. Alors là, on saute évidemment à une technologie beaucoup plus évoluée. C'est des installations qu'on a à Cachan, donc vous reconnaissez les grands outils de la micro-opto-électronique. Je passerai à la nano dans une seconde. La tournette, la centrifugation, spin coating, la gravure plasma et la lithographie. Donc voilà l'exemple de voilà ce qu'on fait maintenant de façon tout à fait bien contrôlée, industrialisable. Malheureusement pas en France. Ceci dit, les industriels français sont très au courant de ces recherches. Donc voilà, un multicouche, la lithographie. Alors toute l'intelligence du point de vue de la physique est dans la définition du masque. Hein. Par exemple, pour tous ces jeux de billard dont je n'aurai pas le temps de parler du point de vue physique, j'espère que vous aurez des questions, on va choisir des masques qui vont être au-delà des disques, des stades, des polygones, etc. donc des structures plus ou moins chaotiques. On transfère ça sur une résine, de la résine par plasma sur le matériau actif, et puis ensuite on recouvre, on ne recouvre pas. C'est ce genre de belles choses. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise bien maintenant ici et là, mais ça n'est pas encore la réalisation de la grande promesse des matériaux organiques en optoélectronique, qui est le bas coût, parce que ces technologies, en fait, sont coûteuses et pas tellement grande surface. Alors, la bonne approche consisterait idéalement à utiliser des technologies, par exemple, d'imprimerie, de rouleaux ou alors de tamponnage. Et bon, là, je cite par exemple les travaux de Yariv, qui est le grand homme depuis 30-40 ans de l'optoélectronique semi-conducteur inorganique, et qui depuis 2-3 ans ne travaille pratiquement que à Caltech sur les polymères. Et là, c'est un très bel exemple de ce qui se fait chez lui, chez nous, dans d'autres laboratoires, mais c'est mieux de citer les autres. À partir d'une matrice donc, qui, elle, est fabriquée en mettant tout le meilleur des technologies lourdes, de faisceaux d'électrons, de faisceaux d'ions focalisés, etc. Donc une matrice métallique, comme une matrice de disque, hein, quelque chose qui est un exemplaire unique, pavillon de Breteuil sous cloche, etc. Mais à partir de laquelle on peut fabriquer un moule en polymère, PDMS, qui est un polymère qu'on peut détacher. Ensuite, donc, la structure qui est ici, un micro-anneau, composant clé, s'inscrit en relief, en creux dans le moule, et ensuite on vient tamponner le moule, c'est vraiment un jeu d'enfant, sur une couche active, hein, une couche de polymère lasant, fluorescent, non linéaire, etc. Et ensuite on recommence, on retire le moule, alors le PDMS a la vertu de décoller. Alors lui, évidemment, on va le perdre au bout de 30 ou 40 opérations, je ne sais pas, mais on peut le jeter, c'est pas cher, et on peut recommencer l'opération sur plusieurs niveaux. Et ceci sans perte de qualité quant aux performances du dispositif. Alors là, c'est ce qu'on appelle en télécom un composant d'insertion-extraction. Vous avez vu un guide qui fait un angle droit autour d'un micro-anneau. Ce micro-anneau se comporte comme un résonateur de type Fabry-Perot, et pour certaines longueurs d'onde fixes, là, le rayonnement va être piégé dans le micro-anneau. Et donc, là, vous voyez, quand on varie la longueur d'onde ici, ces fréquences... d'absorption, et donc on peut développer à partir de ce type de composants des filtres passifs, actifs, etc., ou des modulateurs. Et vous voyez des performances identiques en rouge et en bleu pour le niveau N et le niveau N-1. Pas de dégradation. Tout ça est tout à fait compatible avec la qualité nanométrique qui convient pour des expériences de couplage. Typiquement, pour le couplage entre un guide et un micro-anneau, il faut, pour que l'effet tunnel couple le rayonnement dans le guide avec le rayonnement dans l'anneau, maîtriser des longueurs d'interaction qui sont des distances d'interaction de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, et les technologies Electron Beam permettent de faire ça, ainsi que le moulage. J'ai déjà fait l'éloge de la flexibilité. Je vais terminer donc sur la neurophysiologie, le passage du modulateur à la neurophysiologie. J'ai d'autres exemples. Donc voilà le principe de base de fonctionnement d'un modulateur électro-optique, modulateur de phase, hein, dont un peu plus élaboré en modulateur d'amplitude, en interféromètre. Donc l'effet électro-optique, qu'est-ce que c'est? C'est une modification de l'indice de réfraction sous l'effet de l'application d'un voltage, d'un champ électrique, en fait, qui est là, pardon, E grand oméga, lorsque effet variation de l'indice de réfraction qui est ressenti par un rayonnement optique à la fréquence optique visible, infrarouge, fenêtre télécom, petit oméga. Et donc le battement entre le champ haute fréquence électrique, grand oméga, la fréquence grand oméga, et le champ optique à la fréquence petit oméga, via une non-linéarité quadratique, qui de, va engendrer une polarisation à la fréquence somme, tiens, une erreur ici, petit oméga plus grand oméga, plus ou moins grand oméga, qui va engendrer une modulation de fréquence. Donc un champ à la fréquence petit oméga plus ou moins grand oméga, donc qui va inscrire sous forme de ces deux bandes latérales, plus et moins, l'information électrique. Donc ça, bon, j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est très important pour les télécoms. Quel lien avec la neurophysiologie? Imaginez que ce champ électrique ne soit pas porteur d'information, donc bien contrôlé, etc., une information qu'il s'agirait d'inscrire sur une porteuse optique, mais une inconnue. Par exemple, un potentiel dont il va s'agir de faire la cartographie. C'est tout à fait la situation qu'on a en neurophysiologie. Donc j'ai eu l'idée de développer, je pense que c'est un exemple, pour conclure l'exposé, de ce passage entre la physique et la biologie, l'instrumentation, etc., de développer un microscope confocal électro-optique, avec beaucoup d'avantages par rapport au microscope confocal. Mais en particulier, un gros avantage, donc vous reconnaissez ici un interféromètre, l'échantillon ici est entre deux microscopes à forte ouverture numérique, on applique un champ électrique, ou alors on le déclenche soit électriquement, bon, les neurones on peut les mettre sur des substrats préparés, ou on peut mettre de l'acétylcholine pour les chatouiller un peu. Et on mesure ici le déphasage Pockels, que j'ai montré tout à l'heure, par interférence, donc ça devient une modulation d'amplitude. Là, on met tout notre savoir-faire, qui vient d'ailleurs de la physique quantique, en matière de détection, parce qu'il n'y a évidemment pas beaucoup de déphasage dans une membrane ou une couche mince. Et donc, on peut faire une cartographie, en défléchissant comme il faut, de déphasage, à partir de laquelle on peut remonter au champ électrique. Donc, on a construit ce genre d'appareil. On l'a validé, on est en train de le valider sur des polymères électro-optiques qui ont cette vertu. Il faut être capable de mesurer... donc, vous voyez, les déphasages angulaires sont très faibles. Pour mesurer confortablement un potentiel neuronal, il faut monter à 5, 10, moins 6, 10, moins 7 radians. Donc, on y est. Voilà une carte de champ électrique, ou je préfère dire de déphasage, parce que dans un polymère électro-optique, ici, on s'est amusé en chauffant un petit peu le matériau optiquement, à randomiser, à désorienter les molécules, donc à détruire le coefficient de Pockels, si on le voit. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette image qui nous a beaucoup surpris, donc on apprend pas mal de physique. Le but, c'est de remplacer cet instrument que je trouve absolument barbare, qui s'appelle le patch clamp, qui est une pipette métallisée avec laquelle on va percer le neurone pour mesurer un potentiel. Donc, vous imaginez que le neurone, il ne va pas vivre longtemps, il n'aime pas ça. D'autre part, c'est une manip pince-crocodile, micro-pince, en ce sens qu'on va mesurer le potentiel point à point, ou sur des points, en tout cas en des points fixes, par opposition à une approche d'imagerie en déflexion, on va voir sans préjuger ce qui se passe dans un ensemble de neurones. Donc, je crois que les manips sont en cours. Voilà des exemples en génération de seconde harmonique de manips analogues, mais à mon avis beaucoup moins. C'est une autre technique, génération de seconde harmonique ou fluorescence dépendant du champ électrique, où cette fois-ci il faut utiliser des lasers extrêmement puissants et qui sont tout aussi mortels pour le neurone que le patch clamp que j'ai montré tout à l'heure. Bon, et je termine peut-être sur cette image pour revenir à la physique, qui est l'exaltation de ce type d'effet. On est parti des télécoms, on est passé à l'instrumentation, à la bio, je reviens à la nanophysique, donc le grand problème de la physique du solide, qui est le problème du champ local, de l'exaltation, qui a un peu été balayé sous le tapis par des générations de physiciens, mais que les nanotechnologies, la nanophotonique, nous permet de ressortir à nouveau, qu'est-ce qui se passe à l'échelle en dessous de celle déjà très intégrée des équations de Maxwell, quelle est la répartition du champ à l'échelle de mésoscopique, et puis de quelques molécules ou de quelques atomes, et comment tirer parti de ces exaltations, de ces déplétions de champ local, ces effets de champ local, pour par exemple exalter une réponse. Et tout ça a un grand intérêt in fine pour la biologie. Donc, pour conclure, je me suis demandé assez sans plus, sans prendre la pause devant mon miroir, mais bon, quand même, est-ce que je n'étais pas en train de prostituer la biologie, la physique au service de la biologie, etc., disons. Eh bien, je ne pense pas. Après avoir travaillé avec mes collègues depuis déjà pas mal d'années, je pense que tout le monde peut vraiment tirer parti de ce type de coopération, et que ce n'est pas un pis-aller pour un physicien, ce n'est pas une... Il faut, dans un laboratoire, et là je vais chanter un peu les vertus de la structure qu'on a développée à Cachan, qui est une structure fédérative, il faut continuer à mener des études cœur de discipline, de façon à maintenir, une excellence monodisciplinaire. Comme dans un bâtiment, il y a des poutres, et puis il y a des poutres horizontales. On peut, au cours d'une vie, tantôt appuyer sur la poutre, etc., et puis un autre moment, travailler plutôt, étayer au niveau horizontal. Je crois qu'il n'y a pas lieu de hiérarchiser ou de préférer ou de mépriser ou d'honorer inversement telle ou telle démarche. Et que, bon, actuellement, moi et mes collègues, on est plutôt dans une respiration, on travaille ensemble. C'est tout ce que je peux dire et on s'en porte bien. Voilà. J'aurais bien plein d'autres choses à dire, mais le temps, j'ai abusé de votre temps.